Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la République démocratique du pays, du Congo, puisque le pays attend toujours la nomination de son gouvernement. Cela fait bientôt 4 mois que le président Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat. Il a fallu attendre le 1er avril pour qu'il nomme un nouveau Premier ministre, Judith Suminwa. Et depuis, eh bien, elle multiplie les consultations, mais toujours pas de fumée blanche. Alors comprenez-vous que la composition du nouveau gouvernement prenne autant de temps ? Avez-vous l'impression que c'est trop long ? Dites-nous si vos attentes risquent d'être respectées, vous, auditeurs de RFI, vous qui souhaitez évidemment que ce gouvernement voie au plus vite le jour au regard des nombreuses attentes et surtout des nombreux défis que devra relever la nouvelle équipe gouvernementale. On va en parler. Le sujet ne vous laisse pas indifférent, si j'en crois les nombreux commentaires reçus sur WhatsApp et sur Facebook. Et on vous attend au standard, évidemment, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et pour commencer la semaine, nous allons parler des bavures policières au Bénin. Bonjour la Herse.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé, au Togo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, au Bénin, plusieurs policiers ont été arrêtés pour brutalité policière, ainsi que la personne qui avait fermé la scène. Comment expliquer qu'elle est également inquiétée par la justice ?
Oui, la personne, effectivement, qui a filmé cette scène est inquiétée, elle est poursuivie par la justice béninoise. La vidéo filmée d'ailleurs par cette personne est devenue virale. On y voit un homme à terre, roué de coups par des policiers. Une scène qui suscite l'indignation. Bonjour Jean-Luc Aplogan.
Bonjour Juan, bonjour Larissa Lomé.
Correspondant de RFI à Cotonou, merci d'être avec nous. Avant de nous expliquer pourquoi la personne qui a filmé cette bavure policière est poursuivie par la justice, racontez-nous le contexte.
Oui Juan, cet élément de contexte, c'est de savoir que depuis le 1er mars dernier, la police béninoise contrôle et punit les infractions routières commises par les 2, 3, 4 roues et plus. Comme l'a dit la HERS, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a eu 2 incidents filmés qui ont choqué l'opinion publique. L'un a été enregistré à Natitengou, le second à Cotonou. L'incident qu'évoque la HERS, notre auditeur, s'est produit à Natitengou, à 540 km au nord-ouest de Cotonou. La vidéo montre un conducteur de moto à terre, frappé violemment, vous l'avez dit, par des policiers, sans retenue, avec des coups de rendiers dans les côtes. L'opinion est choquée, plusieurs posts fleurissent sur les réseaux sociaux et condamnent la brutalité et l'acharnement sur quelqu'un qui est au sol. La justice s'en mêle, les 4 policiers en cause sont poursuivis et placés en détention provisoire. Celui qui a filmé la scène est également poursuivi et placé en détention pour enregistrement d'images relative à la commission d'une infraction. En clair, on lui reproche d'avoir filmé cette scène et la question posée par la HERS, c'est pourquoi lui ? Eh bien, l'opinion béninoise pose la même question, la même interrogation, elle est surprise et ne comprend pas pourquoi poursuivre quelqu'un qui a donné l'alerte et qui a révélé l'affaire par ses images. L'opinion pense qu'au lieu d'être poursuivi, au lieu de le poursuivre, ce citoyen qui a filmé la scène, eh bien, mériterait une distinction de la République.
Ah oui. Et les 4 policiers en question, tout comme l'auteur de la vidéo, seront jugés cette semaine. Vous avez d'autres questions, la HERS ?
Oui, comment expliquer la fréquence de ces abus par la police récemment ?
Alors, il n'y a pas de statistiques, Jean-Luc Aplogan.
Non, il n'y a pas de statistiques sur les incidents. Les plus spectaculaires sont les incidents de Cotonou et de Natitengou. La police a mis en place un numéro vert pour dénoncer les policiers coupables de bavures. Le nombre d'appels n'est pas rendu public par la police. Alors la question également est de savoir que font les autorités. Eh bien, le directeur de la police a pris la parole pour s'expliquer sur l'opération de contrôle, ses objectifs. Il ne nie pas les bavures et signale aussi l'agression de 11 de ses agents. Trois policiers purgent une sanction de 60 jours d'arrêt de rigueur à Cotonou. Ils pourraient passer en conseil de discipline. Les quatre policiers de Natitingou, vous l'avez dit, seront jugés mercredi prochain pour abus d'autorité, coups et blessures volontaires. Le lanceur d'alerte sera également jugé ce jour-là. La date du procès a été avancée. La date était prévue pour le 15 mai. Certainement pour en finir rapidement.
Et les Béninois, j'imagine, suivront de près le verdict rendu ce mercredi lors du procès des quatre policiers et de cette personne qui a donc filmé la scène et qui se voit poursuivie par la justice. Laërce, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, vous avez bien répondu à ma question, mais j'aimerais demander aussi que préconisent les autorités pour y mettre fin.
Alors, Jean-Luc Aplogan, il y a eu des sanctions, vous le disiez.
Oui, il y a eu des sanctions et je pense qu'il y a des discussions pour que l'apaisement arrive, que la police se réconcilie donc avec la population. Et il y a des avis qui pensent qu'il faut continuer la sensibilisation.
Voilà. Merci à vous, Jean-Luc Aplogan, d'avoir été en direct de Cotonou. Laërce, bonne journée à Lomé, où il est 8h et bientôt 17 minutes, 10h16. Ici à Paris, au Standard, Yves nous rejoint. Soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Au Congo-Brazzaville, et des questions, justement, après les tensions de la semaine dernière, au nord de votre pays, dans la ville de Wesso, ville située à la frontière avec le Cameroun.
Oui, il y a eu des nombreux pillages contre les boutiques tenues par des Camerounais à Wesso. Pourquoi les habitants sont-ils pris contre les Camerounais ? Alors, les tensions entre les Camerounais existent-elles depuis longtemps et le Congo ? Alors, dans cette ville frontalière,
oui.
Cet événement pourrait-il abîmer les relations entre les deux pays ?
Alors, c'est vrai que cette ville est traditionnellement, habituellement calme. Elle a été pourtant le théâtre de pillages la semaine dernière. Des magasins appartenant à des ressortissants camerounais ont effectivement été pris pour cible par des jeunes en colère. Bonjour Loïcia Martial.
Ouais, bonjour Juan.
Correspondant de RFI à Brazzaville, que s'est-il passé ? Pourquoi des habitants s'en sont-ils pris aux Camerounais ?
Oui, Juan, je pense qu'à une question simple comme celle de notre auditeur, il faut donner une réponse simple pour la bonne compréhension de tous. Les jeunes Wessois, entendez par là les jeunes qui habitent Wesso, visiblement en colère, s'en sont pris plus au commerce tenu par les Camerounais. Ils ont éventré quelques-uns et les ont pillés. Pour les habitants de Wesso, c'était la meilleure façon de punir, sinon de corriger les Camerounais, dont un compatriote a kidnappé, séquestré et violé une jeune femme congolaise dans son propre pays. Leur colère a redoublé d'intensité surtout quand ce kidnappeur a demandé une rançon de 500 000 francs CFA, entendez par là 760 euros, aux parents bien sûr et aux autres proches de Sephora. La rançon n'ayant pas été versée, la jeune dame a été assassinée et son corps inhumé nuitamment le 18 avril dernier.
Ah oui, le corps de la jeune femme a été retrouvé effectivement dans la forêt près de Wesso et l'auteur présumé du meurtre a quant à lui été interpellé au Cameroun voisin par la gendarmerie. Avez-vous eu, Loïcia Martial, des informations concernant les Camerounais blessés ou pas lors de ces pillages ?
Oui, malgré ce que vous décrivez, malgré la question de notre auditeur, je dois avouer que les Camerounais tabassés ou molestés, blessés et conduits à l'hôpital par exemple, je n'en ai pas entendu parler. Aucune image n'a montré une telle violence. Les autorités ne l'ont pas dénoncé non plus, à ma connaissance.
Alors, Yves nous demandait si les tensions entre Congolais et Camerounais étaient récurrentes dans cette ville frontalière.
Je ne pense pas, Juan. Pardon, Juan. Parce que Wesso est une ville de commerce et d'affaires réputée habituellement calme. D'ailleurs, à Wesso, 6 à 8 commerces, pour ne pas exagérer, sont tenus par les Camerounais, qui tiennent même des étals dans les marchés. À eux, il faut aussi ajouter des commerçants ouest-africains. À Wesso, Congolais et Camerounais y ont toujours vécu en parfaite harmonie. Je vous assure que l'entente était cordiale et parfaite jusqu'à ce triste événement.
En tout cas, le ministre congolais de l'Intérieur a appelé au calme.
Oui, pour apaiser les tensions, bien sûr. Le ministère congolais de l'Intérieur a instauré des patrouilles dissuasives dans la ville de Wesso, où la sécurité a bien été renforcée. Les bars, restaurants et même la circulation restent ouverts de 6h du matin à 6h du soir seulement. Mesure à observer jusqu'à nouvel ordre. Aux dernières nouvelles, la préfecture de Brazzaville a refusé une autorisation de manifester à un activiste congolais qui souhaitait tenir un sit-in ce lundi 22 avril devant le ministère des Affaires étrangères afin de réclamer justice à Sephora, la jeune Congolaise, enlevée, séquestrée, violée et tuée à Ouessou. La préfecture explique ce rejet par le fait que la démarche n'engage nullement une association.
En tout cas, le ministre
congolais de l'Intérieur, Wan, a assuré que les suites judiciaires de cette affaire seront données, je cite, conformément aux accords de coopération liant le Congo et le Cameroun, deux pays voisins.
Oui, rappelons que le meurtrier présumé a été interpellé effectivement au Cameroun. Yves, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, merci beaucoup, Juan Gomez.
Ben, merci à vous et surtout à Loïcia Martial, correspondant de RFI au Congo, Brazzaville. Des explications, évidemment, à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Vous avez des questions sur l'actualité, appelez-nous. On se fait un plaisir d'y répondre tous les matins entre 8h10 et 8h30, temps universel. 33 9 693 693 70. Bonjour Anissé.
Juan, bonjour.
À Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, c'est bien ça?
C'est ça, Juan, exactement.
Vous avez des questions sur la rencontre la semaine dernière entre le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra?
Effectivement. Emmanuel Macron a accueilli à Paris le président centrafricain pour relancer la relation Centrafrique-France. C'est la deuxième rencontre en 6 mois entre les deux hommes, Juan. Suite à ce sujet, j'ai deux questions. Comment expliquer cet apaisement entre les deux pays?
Alors, apaisement entre les deux pays, effectivement, faut-il y voir une fin de la brouille? Bonjour Charles Boissel.
Bonjour.
Analyste pour International Crisis Group, c'est vrai que les deux présidents se sont rencontrés même à 3 reprises en l'espace d'un an et demi. La précédente rencontre, c'était il y a 6 mois, Anissé le rappelait à l'instant. Faustin Archange Touadéra a reçu donc la semaine dernière à l'Élysée. Peut-on parler d'un réchauffement des relations entre Paris et Bangui après toutes ces années de brouille?
Alors oui, on peut parler d'un réchauffement ou à minima d'un apaisement des relations entre les deux pays. La France a décidé en fait de revoir sa stratégie centrafricaine, dont la pierre angulaire depuis 2018 était d'exiger le départ de Wagner presque sans condition. On se souvient donc qu'à l'époque, la France avait alors suspendu une partie de son aide budgétaire, notamment en exigeant un départ de la société militaire privée russe avant toute reprise des relations. Cette posture française n'avait donné aucun résultat diplomatique quasiment, avec en plus une quasi-rupture des relations entre les deux pays et un recul de l'influence française dans le pays. Cette situation s'est répliquée aussi dans d'autres pays. Paris n'était pas parvenu à juguler la perte de son influence donc dans d'autres pays d'Afrique francophone qui avaient à leur tour noué des partenariats avec Wagner, notamment le Mali, le Burkina ou encore le Niger.
Mais contrairement à ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, la Centrafrique, elle maintient le contact avec Paris aujourd'hui.
Bien sûr, après une période de brouille diplomatique, on observe donc un réchauffement, une reprise du contact. Et donc peut-être que la Centrafrique fait figure de laboratoire dans la diplomatie française pour renouer le contact avec ces pays d'Afrique francophone. Et donc, comme vous l'avez évoqué, on a eu plusieurs rencontres diplomatiques entre le président Touadéra et le président Macron, qui avaient donné quelques résultats. On se souvient qu'après la rencontre en mars 2023 au Gabon, un ressortissant français incarcéré à Bangui avait été libéré. On avait aussi noté une diminution de la propagande anti-française dans le pays. Mais au-delà de ces petits gains diplomatiques, on n'a observé aucun recul de l'influence russe dans le pays. Au contraire même, la partie centrafricaine d'ailleurs refuserait de se passer de l'assistance de Wagner, du moins sans obtenir une assistance sécuritaire équivalente à celle offerte par le groupe russe. Mais Bangui déclare souvent et publiquement que le pays est ouvert à tout partenariat, notamment dans le domaine sécuritaire.
Et des partenariats, en tout cas, il en a été question la semaine dernière à l'Élysée, puisque les deux présidents ont adopté une feuille de route pour, je cite le communiqué, un partenariat constructif. Que faut-il comprendre en quelques mots, Charles Boissel?
Tout à fait. Alors, pour l'instant, de ce qu'on sait de ce partenariat, c'est qu'il comprend une feuille de route pour une reprise de relations diplomatiques apaisées entre les deux pays. Alors, côté français, on imagine bien ce que cette feuille de route peut contenir. Donc, peut-être d'abord un engagement à reprendre l'appui budgétaire français à la Centrafrique, qui fait régulièrement face à des crises de trésorerie. Et même une source proche du président Touadéra évoque même une éventuelle reprise côté Union européenne des formations militaires, bien que rien n'indique que nous en arriverons là bientôt. En revanche, on ignore encore tous des engagements pris par la partie centrafricaine dans cette feuille de route. Le communiqué de l'Élysée, d'ailleurs, reste assez flou dans ses formulations, parlant d'un renforcement de la stabilité et de la cohésion sociale du pays. Ce qu'on peut noter, c'est que la formulation de la France assez floue ne critique plus ouvertement la présence de Wagner, signe que Paris a assoupli sa position à ce sujet. On se souvient qu'en 2021, le président Macron qualifiait le président Touadéra d'otage de Wagner. On sent que l'Élysée fait preuve de plus de prudence diplomatique aujourd'hui. Il est pour autant difficile de juger de la crédibilité de ce nouveau partenariat pour l'instant. Si la France espère un départ de Wagner rapide, ce serait donc une position naïve. Le groupe est bien installé dans le pays et a déjà prouvé son utilité pour le régime centrafricain en repoussant une attaque rebelle sur la capitale en 2021 et en parvenant depuis à chasser les groupes armés des principales villes du pays. De l'autre côté, une cohabitation entre les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis et la Russie, sur le terrain sécuritaire paraît encore difficile, voire impossible. On se souvient donc qu'il y a une société militaire privée américaine, Bancroft International, qui en a récemment fait les frais. Donc la société n'est pas parvenue à s'installer en Centrafrique suite aux pressions qu'elle a subies de la part de la Russie. Et d'ailleurs, ce dossier de Bancroft a pu aussi être évoqué entre Macron et Touadéra, puisque Macron connaît bien l'un des apporteurs d'affaires qui était parvenu à faire signer ce contrat entre Bancroft et la Centrafrique. Il s'agit de son ancien chargé de sécurité, Alexandre Benalla.
Merci infiniment, Charles Boissel, de toutes ces explications et de vos analyses pertinentes. Je rappelle que vous travaillez pour International Crisis Group. Anissé, bonne journée à Bangassou et merci de nous écouter dans le sud-ouest de la Centrafrique. Il nous reste 2 minutes, trop court pour prendre le temps de répondre à Jean-Claude, qui nous a contacté de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est lui-même cultivateur de cacao et il ne comprend pas pourquoi lui, comme les autres producteurs de cacao, ne profite pas de la flambée des cours du cacao sur le marché international. Je vous rappelle que la tonne de cacao se négocie en ce moment à peu près $11 000 la tonne, alors que les cultivateurs ivoiriens, eux, perçoivent 1500 francs CFA, soit 2,30 € le kilo pour la récolte intermédiaire. Et Jean-Claude voulait comprendre le pourquoi du comment et savoir s'il, lui, comme les autres cultivateurs, finiront par bénéficier de cette flambée des cours. On prendra le temps, évidemment, car le sujet est complexe, Jean-Claude, de vous répondre demain ou après-demain. En tout cas, dès que vous serez disponible, bien évidemment, pour vous éclairer davantage. D'autant que la dernière fois, nous avons eu dans cette émission le ministre de l'Agriculture qui s'est expliqué, vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, m'a-t-on dit, 1 million de vues. C'est dire si le sujet vous intéresse et le sujet suscite un grand intérêt. La rédaction revient demain, 8h10 temps universel, pour répondre à d'autres questions. D'ici là, évidemment, vous nous appelez, le standard vous attend, 33 9 693 693 70. On va marquer une pause, 10 minutes, pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après pour débattre de ce gouvernement qui se fait attendre en République démocratique du Congo. Il y a certes des négociations, des conciliabules. La première ministre rencontre les différents regroupements politiques, mais pour l'instant, toujours rien, toujours pas de fumée blanche. Les Congolais attendent toujours la nomination de ce gouvernement. On va donc en parler tous ensemble dans 10 minutes.